La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, bienvenue à La Tribune. À l'émission aujourd'hui, Journée mondiale de la santé, je reçois les docteurs André Luyet, psychiatre, et Jean-David Perrault, pneumologue, le pharmacien David Gauthier, l'infirmier clinicien Steve Gouin, la chercheuse Catherine Martel et la nutritionniste Marie Moilette. Je les retrouve et vous retrouve après la pause.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
À tous les auditeurs de CJSO, votre mission est lancée. Votre objectif, remporter 101,7 $ en argent grâce au printemps payant de CJSO 101,7. Vos instructions, du lundi au vendredi, écoutez l'émission Yatsé Matin. Vers 8h05, Guillaume Couture nommera au hasard une adresse de la région de Sorel-Tracy. Vous y habitez? Vous aurez jusqu'à midi le jour même pour vous présenter à la station. Avec une preuve de résidence, réclamez votre gain et dire « Mission accomplie ».
Une présentation de CJSO 101.7 et de ses partenaires.
L'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton et piscine spa Jannick Terrien et fils.
Ici Marco Lavallée de l'Expo agricole de Sorel-Tracy.
Ici Jean-Pierre Groux des régates internationales de Sorel-Tracy et du Jeep Fest.
Ici Laurent Cournoyer du festival Bière Vin Terroir de Sainte-Anne-de-Sorel.
Procurez-vous vos billets en pré-vente pour participer à nos événements et festivals et obtenez un carnet de coupons rabais de nos marchands locaux participants. Une belle façon d'économiser tout en soutenant nos organisations et l'achat local. Ensemble, faisons rayonner notre région.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Alors, c'est en ce 7 avril, la Journée mondiale de la santé. On a voulu la marquer, cette journée-là, la célébrer en réunissant autour des micros de CJSO des professionnels de la santé. Il y a, je vous l'assure, là, de la science en concentré dans ce studio et puis beaucoup, beaucoup d'années d'études. Alors, mes invités, tiens, je vais déclarer tout de suite un conflit d'intérêts. C'était mon grand ami au secondaire à Sacré-Cœur puis à Bernard Gariépy où on a fait du journalisme étudiant, mais je vais l'appeler ce midi par son titre plutôt que son prénom, puis je vais le vouvoyer. Docteur André Luyet, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Luyet est aujourd'hui semi-retraité, ce qui finira par m'arriver à moi aussi. Là, je viens de vous dire qu'on a le même âge. Il est psychiatre, il a occupé bien des fonctions auxquelles nous allons revenir dans pas long. Docteur Jean-David Perrault est, lui, pneumologue, fonction qu'il exerce à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Bienvenue à CJSO, docteur Perrault.
Merci.
Catherine Martel est directrice associée à la recherche au Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Sans doute a-t-elle, pour se rendre à CJSO, on a fait la blague, André et moi, là, emprunté le pont portant le nom de son père, Maurice Martel, député de Richelieu de 66 à 70 et de 76 à 85. Bonjour, Catherine Martel.
Bonjour, Monsieur Rochon.
On va revenir sur votre propre CV. On ne va pas se contenter de celui de votre père. Marie Ouellette est nutritionniste. Elle a œuvré en santé publique, puis travaille depuis 2023 en nutrition clinique ici au CLSC. Bonjour Marie.
Bonjour.
Steve Gouin est infirmier clinicien, il travaille en soins palliatifs, on le connaît aussi comme musicien. Bonjour Steve Gouin.
Allô.
On va lui donner tantôt la bascule parce que c'est son anniversaire. Quoique je ne suis pas sûr, messieurs les médecins et professionnels de la santé, que ce soit bien bon pour le dos donner la bascule à quelqu'un. Hein?
Pour lui ou pour nous?
Oui, c'est vrai, il y a le risque aussi encouru par lui-même. Et David Gauthier, pour ainsi dire, notre pharmacien en résidence à CJSO, on peut l'y entendre tous les jeudis 17h15 avec Valérie Ferland. Bonjour David.
Bonjour Sylvain.
Bon, d'où vous est d'abord venu à chacune et chacun le goût pour la science? J'ai le goût de commencer avec ça. Elle est née comment, votre passion pour la science? On va y aller par ordre alphabétique, ce qui va faire notre pharmacien, celui qui brise la glace.
Oui.
David Gauthier, c'était pour ainsi dire, toi, dans tes gènes, l'intérêt pour le domaine de la santé.
Oui, oui, je suis né dans une famille de santé, à vrai dire. Je suis fils d'un médecin et fils d'une infirmière. Alors, j'ai baigné là-dedans toute ma vie. J'ai eu des discussions autour de la table entre un médecin et une infirmière, avec toujours le soin du patient en prime. Mais je suis le seul des garçons chez nous, on est trois gars chez nous, je suis le seul qui s'est dirigé vers la pharmacie. À vrai dire que dans mes études, je regardais la médecine, la pharmacie, différentes choses, et toujours guidé par le patient. Je dirais, j'avais juste le goût de trouver une façon d'être près du monde et peut-être de soigner du monde et d'enseigner des choses aux gens. Donc, c'est ce qui m'a poussé.
La pharmacologie, est-ce que c'était, pour avoir vu ton père médecin puis ta mère infirmière, trop peu avoir de vie? C'est pour ça qu'elle est en pharmacie?
Mes parents travaillaient beaucoup, je travaille beaucoup, puis c'est par passion, mais je suis obligé d'avouer que la première fois que mon père m'a amené dans une pharmacie à Saint-Bruno, je suis rentré dans le laboratoire avec lui parce que, comme médecin, il rentrait au laboratoire faire les prescriptions avec le pharmacien. Puis j'y avais dit, ça a l'air donc compliqué, jamais de ma vie je serai pharmacien.
C'est vrai?
Oui, absolument. Je visais l'enseignement ou la médecine. Puis bon, j'ai mal fini, il faut croire. J'ai pris une tangente vers la pharmacie, mais bon, il n'y a rien pour rien dans la vie, mais oui.
Tes fonctions de pharmacien, là, j'ai cru entendre qu'elles t'accaparaient autant que ton père et ta mère ont été accaparés par les leurs.
Je pense que c'est par passion, ça. Aussi par dérive que je suis devenu pharmacien propriétaire. Je voulais pas être propriétaire au début. Là, je pense que c'est en creusant notre chemin qu'on finit par avoir des différentes décisions. Mais le travail, moi, je me suis toujours fait dire qu'il faut juste aimer ce qu'on fait. Là, donc, je pense que quand on aime ce qu'on fait, le travail n'est plus un travail. Tantôt, on parlait de pré-retraite. Ben, je pense que quand on aime le travail, l'âge... il n'y a plus d'importance, c'est juste le plaisir qu'on met au travail. Donc,
et qu'aimes-tu par-dessus tout du domaine de la pharmacie?
Le lien avec le patient, tout simplement. Il n'y avait pas d'autre réponse. Moi, avant d'être propriétaire, j'enseignais, je donnais des conférences, toujours pour être près du monde. Et bon, à la base, c'est la communication qui me plaît. Là, c'est drôle, là, c'est un peu pour ça que je suis ici à CJSO toutes les semaines.
Moi, puis t'es une des vedettes de la bannière brunet aussi. La télé, on le voit beaucoup, ce monsieur à la télé. Hein?
Ouais, ben, j'aime faire les balados et autres avec la bannière, mais de base, ma passion, c'est le monde, c'est le patient. Puis on est drôlement utile. Là, si je parle pour ma profession, ben, c'est sans arrêt dans une journée. Puis la place qu'on prend auprès d'eux est importante. Donc, c'est juste le fun d'être près du patient.
Et rien David Gauthier n'entame cette passion-là, ne la rend moins vive, ne la contraint. Tu dois bien vivre des irritants. Là. Vous sortez d'une main de fer avec le gouvernement, d'un bras de fer avec le gouvernement.
Oui. De dire que c'est toujours facile et rose, non, mais en même temps, c'est nécessaire aussi. Puis moi, j'ai toujours tendance à me dire qu'on vit nos problèmes en ce moment, tous les scientifiques et les patients et autres. Et bien, il y a 10 ans, il y avait d'autres problèmes, puis dans 10 ans, ça sera d'autres problèmes. Là, je pense que c'est à nous de les affronter présentement. Je trouve malheureusement que ce qu'on perd des fois en réflexion, c'est le patient. On a souvent tendance, je trouve, à mettre le patient de côté puis à chicaner au-dessus. Mais dans le fond, comme je disais, moi, j'ai été élevé par deux professionnels qui finalement, c'était pas l'infirmière qui était plus importante que le médecin ou vice-versa. Là. Mes parents ont toujours parlé du patient comme la personne la plus importante dans le système. Et ça, on l'oublie, je trouve, trop souvent dans nos chicanes gouvernementales.
Bon, alors, on va parler à quelqu'un qui n'est pas moins important que le médecin, l'infirmier clinicien Steve Gouin. Est-ce que tu as eu, comme David, Steve, des gens près de toi qui ont œuvré en santé?
Pas vraiment. C'est vraiment... Moi, je suis un sportif. Je devais être une police à la base, qui est particulièrement drôle.
Attends un peu, là, une police qui a viré infirmier?
Oui, parce que c'est le sport qui m'a emmené plus haut à un moment donné. Puis, de jeune, comme ma mère disait, tu disais tout le temps que j'étais pour être joueur de hockey professionnel ou docteur. J'ai toujours dit ça depuis que j'étais très jeune. Drôle de chose. Puis la force de la vie, quand j'étais dans un cégep pour aller jouer au football, qui n'était pas le hockey, il n'y avait pas la discipline de technique policière. Fait qu'à ce moment-là, en rouvrant le livre du cursus, il y avait sciences infirmières. Puis pour moi, ben, science, infirmière, médecine, docteur, ça se ressemble. Donc, je voulais aller jouer au football là-bas, à Victoriaville. Mais la vie, rencontre une conjointe, une femme, ainsi de suite. Le cours d'infirmier se donnait à Sorel-Tracy. Fait que j'ai jamais joué au football.
Mais là, là tu as dû être minorité visible dans ce cours d'infirmier.
Oui, il n'y en a pas beaucoup de garçons. Non, il n'y en a pas beaucoup. On avait commencé peut-être 15. On a fini peut-être 7 sur tout le lot. Oui, c'est une minorité, mais c'est correct en soi. Je veux dire, j'aime bien être en minorité.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir infirmier?
Ben, c'est l'être humain pour de vrai aussi, je veux dire, comme David, l'être humain, c'est passionnant. Puis qu'on parlait de science tout à l'heure, tu sais, la biologie, la psychologie, plus qu'on se creuse dans ça, plus qu'on en apprend, plus qu'on est curieux, puis plus ça devient intéressant. Puis de pouvoir faire la différence dans la vie de quelqu'un, en tout cas pour mon métier, à moi qui est en soins palliatifs, tu sais, c'est sûr, ça fait weird là, quand on entend ça, que c'est une passion, mon travail, mais la mort, c'est la finitude, mais on va tous mourir. Tu sais, faut regarder avant un être humain, comme David le soigne avec la médication, Dr Perrault fait les meilleurs soins, puis ça y est pour le mieux pour cette personne-là, bien, on veut tout le bien-être de ce patient-là.
Est-ce que dans la vraie vie, dans la profession dont tu avais rêvé ou avais-tu vu en rêvant de la pratiquer, cette passion-là, avais-tu idéalisé la profession? Est-ce que tu te rends compte que tu avais idéalisé la profession?
Non. Je m'en allais soigner les gens, mais de travailler en soins palliatifs, qui va faire bientôt 25 ans quand même, si on regarde ça comme ça, c'est une illumination que j'ai eue. Si on pourrait parler de... On pourrait en parler, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est trop long, là. Mais vraiment, j'avais une illumination qui me disait que ma mission sur la Terre, c'était entre la vie et la mort des gens. Donc, à ce moment-là, j'avais rien compris. J'étais déjà infirmier à domicile. Fait que là, je cherchais à comprendre le sens. C'est arrivé par la force des choses. Quatre jours après, ma supérieure avait besoin de quelque chose pour inventer les soins palliatifs dans la région qui a été inventée en 2001, grosso modo. Et j'ai commencé ce début-là dans la région. Puis j'en suis encore bien heureux et bien passionné.
André Luyet, permets-moi ce nouveau clin d'œil à ce qui nous a unis. Comment on passe du journalisme étudiant à la médecine? Hein? Parce qu'on a été journal étudiant tous les deux, là, Déclic, Impact, ainsi de suite. Là. Comment est-il né cet intérêt là, pour la médecine chez toi?
D'abord, un intérêt pour la science. Et ensuite, découverte des sciences humaines. Puis il y a comme un point de rencontre avec la science peut-être la plus humaine, qui est celle de la médecine, et par la suite, continuer jusqu'à la spécialité en santé mentale pour comprendre l'humain et être en mesure de se placer à son service.
Ben, j'allais justement te demander, et la psychiatrie, pourquoi cette spécialité-là t'a-t-elle attiré?
C'était... Pendant l'externat, on fait une rotation dans plusieurs services. Et puis, mon stage de psychiatrie est survenu comme à la fin de toute cette rotation-là. Alors, j'avais eu une exposition à tous les différents domaines de la médecine. Mes intérêts étaient nombreux. Je me serais même vu comme un médecin de famille. Et je réalise aussi la place et l'importance de la médecine de famille... plus que jamais maintenant. Et j'ai trouvé celle qui me rejoignait le plus dans mes intérêts pour la personne en psychiatrie.
Alors, 30 ans d'exercice professionnel en santé mentale à Louis H. Lafontaine, dont tu es devenu chef de département clinique et directeur des affaires médicales. Ton CV est long comme le bras, là. Premier directeur des services professionnels du CIUS de l'Est de Montréal, professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal, directeur général du Collège des médecins, ça, ce sont les fonctions les plus récentes. De toutes ces fonctions, lesquelles as-tu le plus apprécié ou t'es-tu senti le plus utile?
Mais à travers toutes ces... J'ai une grande implication en médicaux administratifs et en médicaux légaux. D'experts aussi pour le tribunal. C'est toujours le colloque singulier de la rencontre avec le patient qui est le plus gratifiant. Mais après avoir étudié, là, on a aussi des outils pour lui venir en aide. Alors, ça devient moins effrayant et on se voit davantage comme pouvant apporter un changement dans le parcours de ces personnes-là. Puis à partir de là, ben, voir tous les courants modernes, là, de la pleine citoyenneté pour tous, et puis le respect des droits des individus, et avoir des traitements et des approches à offrir qui reposent sur les meilleures pratiques et sur des données probantes aussi. Sortir de l'époque lointaine, heureusement maintenant, du n'importe quoi, pour qui faisait en sorte que commencer à consulter un professionnel plutôt qu'un autre pouvait changer complètement la suite des la suite d'une vie, même ça pouvait aller jusque-là. Alors maintenant, c'est un peu plus... ça repose davantage sur des bases solides au plan méthodologique et au plan scientifique.
Je me tourne vers Catherine Martel, chercheuse universitaire, professeure titulaire à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, directrice associée à la recherche du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Le domaine de la santé, c'était, comme dans le cas de David, dans tes gènes, Catherine, un grand-père et un père pharmacien dont ton frère Alexandre a suivi les traces. Il y a des médecins aussi chez les Ménard, la famille de ta mère. Est-ce que ça a influencé ton choix professionnel, ça?
Bien sûr. Puis je souligne même qu'on est la plus vieille famille de pharmaciens au Canada. Donc, quand j'enseigne justement à la faculté de pharmacie aussi, même si je suis professeur titulaire à la faculté de médecine, j'enseigne quand même aux futurs pharmaciens. Et je prends la peine de le souligner. Puis j'ai même ma nièce, Charlie, la fille d'Alexandre, qui étudie en pharmacie à l'Université Laval en ce moment. Donc, elle perpétue la tradition de pharmacien. Je souligne aussi, on en parle très peu, parce qu'elle a quand même élevé 5 enfants, mais ma mère est orthophoniste
de profession. Oui, c'est vrai.
Donc, c'est pas mal ça aussi. Je vous dirais que c'est la capacité de mes parents à prendre soin de la population, que ce soit par leur métier d'orthophoniste ou de pharmacien, ou par leur métier de politicien également, qui m'ont donné envie de faire la science, de comprendre les bases physiopathologiques, autant des maladies que de la physiologie également. Donc, qu'est-ce qui arrive avant qu'une personne soit malade? Qu'est-ce qui le prédispose ou la prédispose à tomber malade? Et justement, quelles sont les cibles thérapeutiques qui nous amènent à développer ces 10 médicaments? Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à faire de la science, à mieux comprendre qu'est-ce qui arrive avant qu'un individu soit malade.
Et ce qui te stimule le plus dans le domaine de la recherche médicale, tu vas me dire que ce sont les découvertes?
Non, mais j'irais, évidemment, c'est les découvertes, mais c'est la multidisciplinarité de la chose. Donc, c'est plus vrai maintenant qu'un chercheur est un petit rat de laboratoire qui doit être enfermé dans son laboratoire. Maintenant, on cherche des individus qui sont capables de s'exprimer autant par oral que par écrit, autant en anglais qu'en français, parce qu'évidemment, les tribunes scientifiques sont majoritairement en anglais, quoique là, le gouvernement fédéral essaie de mettre de plus en plus l'emphase sur la rédaction des demandes de fond en français. Mais c'est vraiment cette interdisciplinarité-là aussi. Ça nous permet d'enseigner au niveau universitaire. Parfois, on a des stagiaires au niveau collégial aussi qui viennent dans nos laboratoires. Donc, on essaie de faire la différence, essayer de montrer l'importance de la science dans la prise des décisions à différents paliers gouvernementaux.
J'accélère. Marie Ouellette, nutritionniste, à ton tour de me dire comment s'est développé chez toi cette passion pour la nutrition?
Je sais pas, dans le fond. Quand tu poses cette question-là, on dirait que je vois le grand jardin à ma mère qu'on avait dans la cour en arrière de chez nous, mais vraiment immense. Puis là, ben, tu sais, c'était la saison des semences. On mangeait nos haricots jusqu'à qu'ils étaient prêts, le compostage. On dirait que c'est tout ça, moi, qui est venu me chercher. Puis le côté scientifique, ben, c'est comme quand j'ai pris mes cours de biologie, je dis, manger ça a des impacts ou ne pas manger ça a des impacts. Fait que là, c'est comme venu me chercher. Puis là, ben, j'ai choisi de faire mon bac en nutrition. Puis c'est une fois sur le marché du travail que j'ai vu, au-delà de tout ça, que je n'ai pas appris beaucoup dans mes études, mais là, il faut que tu gères le comportement humain en lien avec ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Puis là, c'est un monde infini, insoupçonné de psychologie, de gestion qu'a fallu que j'aille me perfectionner parce que... C'est parfois, tu sais, j'ai des choses, j'évalue mon patient, je sais qu'il y a des choses à changer dans son alimentation, mais en fonction de ses habitudes, de ses capacités à cuisiner ou à ne pas cuisiner, en fonction de son budget, il faut que j'adapte ce que j'ai à lui dire, fait que c'est très difficile. Tu sais, dire à des gens, mange des fruits et légumes, c'est facile à dire, mais s'ils en ont jamais cuisiné puis qu'ils n'ont pas de budget pour en acheter, mon rôle, c'est quand même de l'amener à en manger.
Est-ce que le focus est suffisamment mis sur la nutrition, sur l'alimentation comme un déterminant de la santé?
Non, mais oui, à cause de ces médias sociaux-là puis d'influenceurs. Là, on est rendu avec des cafés lattés, avec des protéines, c'est épouvantable, tu sais, mais c'est tout le tout ce qu'il y a autour, c'est trop, les compagnies ont énormément de pouvoir. Tu sais, le producteur de pommes n'aura jamais assez d'argent pour vendre ses pommes, mais Coca-Cola, ils ont des budgets. Fait que, tu sais, c'est pas égal, mais l'impact de la nutrition sur un patient dénutri, malheureusement, je pense que c'est pas encore assez pris en charge.
Je termine ce premier tour de table que j'ai voulu faire porter sur l'intérêt de chacune et chacun là pour le domaine, pour son domaine d'exercice, en me tournant vers le docteur Perrault, Jean-David Perrault. Quelque chose vous destinait-il dès tout petit à la médecine, ou est-ce que c'est une vocation plus tardive que ça?
Rien ne m'a amené à la médecine.
Non?
Je suis dans une famille immédiate 100% peuplée d'ingénieurs chimiques, tous gradués de Polytechnique, certains avec les mêmes professeurs. C'est sûr que j'allais faire quelque chose en sciences depuis le club des petits débrouillards en première année, quand on a commencé à faire des volcans avec du vinaigre puis de la petite vache. Et ensuite, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, en fait, je suis pas un planificateur, je suis pas un leader dans ces choses-là, je réagis au moment. Ma carrière est vraiment comme une petite boule qui tombe dans le jeu de Pachinko. Alors, tu sais, au cégep, c'était plus les sciences, oui, plus la biologie. Donc ensuite, bac en biologie. Ensuite, 3 ans en médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Ensuite, je me suis dit, je sais pas sûr de comment est-ce qu'on va gérer le côté financier, corporatif, je veux pas appeler ça corporatif, d'une clinique vétérinaire. Alors, on va essayer la médecine humaine, c'est la même médecine, moins d'animaux. Et ensuite, je me suis dit, je préférerais faire quelque chose avec peut-être un peu plus de technique. Donc, c'était soit la gastro-entérologie ou la pneumologie. Et me voici.
Et ça finit par être la pneumologie.
Ça finit par être la pneumologie.
Pourquoi la pneumologie?
D'abord, encore une fois, la science est fantastique. Elle est très intéressante. Et aussi parce que les pneumologues, un peu comme les gastro-entérologues, certaines autres, sont non seulement près de leurs patients, mais sont aussi des techniciens et vont jouer à plusieurs niveaux. On n'est pas juste des prescripteurs de X, on est des gens qui vont dire « OK, non, on peut jouer sur ce geste-là ». Fait qu'on a un doigt un peu partout dans la médecine. On n'est pas pathologiste, mais on parle aux pathologistes. On n'est pas chirurgien, mais on est technicien. On n'est pas interniste, mais on peut expliquer la science et notre technique et notre savoir à un généraliste. Tout ça.
Est-ce vrai, est-ce toujours vrai que la prévalence des maladies pulmonaires est supérieure ici dans Pierre-de-Sorel à la moyenne québécoise?
Malheureusement, oui, si on regarde les dernières... pas épouvantablement, mais significativement, oui.
À cause de? Plusieurs facteurs, vous allez me dire? On est porté à pointer la pollution industrielle,
Plusieurs facteurs. Comment dire, quand quelqu'un arrive avec un ancien travailleur d'usine, il va nous dire, oui, mon problème de poumon est dû à mon travail. Oui, vous avez aussi fumé. C'est dur de faire la différence. On en rit maintenant quand ils sont à la CSST ou quand on doit vraiment décider d'où vient leur problème, ça peut devenir épineux. Oui, malheureusement, on a une bonne population de fumeurs qui est en diminution. On a aussi eu des industries polluantes, je veux dire, biologiquement polluantes. J'essaie de ne pas mordre la main qui nourrit. On a vu une industrie de bateaux qui malheureusement a laissé des traces sur des poumons de plusieurs de mes patients que je vois encore sur leur CT scan et que je dois envoyer à certains moments à la CSST. Et maintenant, on a les nouveaux fléaux que je ne sais pas comment, qu'on n'a pas encore bien quantifié, qui est le pot et le vapotage, qui va nous prendre probablement 20 ans avant de dire avec certitude quel est son impact et quel est...
Trouvez-vous ça incroyable qu'on ait légalisé la marijuana, le cannabis?
Je suis pas surpris. J'avais les dents très serrées au début, juste côté, pas pulmonaire, côté psychologique, parce que je pense que ça va être le premier impact. Le premier impact ne va pas être quelques crises d'asthme de plus, il va plus être des psychoses toxiques sur du monde qui n'ont jamais fait ça et qui n'ont pas été commandés. En même temps, je peux comprendre qu'on ne devrait peut-être pas envoyer tout notre monde qui fume un peu d'herbe en prison avec des grosses sentences, mais encore une fois, je ne suis pas politicien et je suis contre tout ce qui est fumé. Mais je ne veux pas non plus qu'on ait un gouvernement bio-autoritaire. Mmh. Je vous dis qu'est-ce que vous allez faire.
Docteur Perrault, merci. Mesdames, messieurs, merci. Nous allons aller à la pause, le temps de publicité. On est de retour immédiatement après.
La bonne nouvelle économique vous est présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Développement économique Pierre de Sorel annonce la contribution financière de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel au Fonds local de solidarité, un outil pour appuyer les entreprises de la MRC de Pierre de Sorel dans leurs projets de démarrage, d'expansion ou de relève. Cette annonce survient dans le contexte où plusieurs entreprises de la région doivent composer avec un environnement économique incertain. L'investissement de 100 000 $ de Desjardins permettra d'augmenter la contribution du Fonds de solidarité FTQ, un mécanisme qui pourrait ajouter jusqu'à 500 000 $ au capital disponible. Grâce à cet effet de levier, le FLS pourrait atteindre environ 1,6 million, offrant aux entreprises un soutien financier nettement plus important pour réaliser leurs projets. Concrètement, ça signifie que davantage de projets structurants pourront voir le jour, que des emplois pourront être créés ou maintenus et que les entreprises disposeront d'un accompagnement financier plus adapté à leurs ambitions.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Mardi dans Valérie l'après-midi, on ouvre la boutique de souvenirs avec Jean-Pierre Gravel et on parle du Canadien de Montréal avec le journaliste Richard Labbé. Soyez là de 15h30.
Valérie l'après-midi, une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Alors, c'est en ce 7 avril, la Journée mondiale de la santé. Nous avons réuni pour l'occasion des professionnels de la santé en studio, les docteurs André Luyet, psychiatre, et Jean-David Perrault, pneumologue, le pharmacien David Gauthier, l'infirmier clinicien Steve Gouin, la chercheuse Catherine Martel et la nutritionniste Marie Ouellette. Question de rigoler un peu ou pas. J'ai envie de vérifier, appliquer à vous, à vos cas, la justesse d'un vieux proverbe français dont on donne à Montaigne la paternité. Personne ne devine où je vais, là. Le proverbe, c'est « les cordonniers sont les plus mal chaussés ». Est-ce que vous fuyez, vous autres, quand il est question de votre propre santé, les hôpitaux, les médicaments, les piqûres? Est-ce que quand on prend votre tension artérielle, vous êtes victime du syndrome du sarrau blanc? On dit ça beaucoup on a souvent dit des médecins et des infirmières que c'était les derniers à vouloir aller se faire traiter à l'hôpital. Comment vous vivez ça, vous autres? Qui a envie? Répondez pas tous en même temps. Toi, David, t'as l'air d'avoir l'envie de répondre à ça.
Je suis obligé de dire que je me traite pas super bien. C'est drôle, moi, je fais de la radio avec Valérie, qui est une experte pour se traiter. Mais non, j'ai tendance à laisser aller. Je suis obligé de prendre ma conjointe en conseil et qui va me dire, ben vas-y, puis fais ça. Puis évidemment, j'ai été élevé par un médecin. Fait que nous, ça se passait à la maison. Donc là, maintenant, j'essaye avec l'âge aujourd'hui d'insister et d'aller voir mon médecin. Mais non, je suis pas...
Alors, cordonnier mal chaussé, ça peut s'appliquer à toi?
Un petit peu, oui, malheureusement. Oui.
Les autres, il y en a d'autres qui ont le goût de réagir à ça.
Je ne sais pas si André, j'irais jusqu'à en faire un adage, mais j'ai plutôt tendance à croire que les médecins, lorsqu'ils sont touchés par des problèmes de santé, sont des personnes comme les autres. Mm-hmm. Ils peuvent être aussi démunis face à des problèmes de santé que la population générale. Je ne pense pas qu'on devrait les voir comme des êtres différents.
Quelqu'un d'autre a le goût de rebondir là-dessus? Ou?
Ben, Steve? Moi, je dirais que dans le fond, cordonnier plus mal chaussé, non, j'applique beaucoup de choses, je mange bien, je fais attention, tout ça, mais il ne faut jamais oublier esprit sain dans un corps sain. Et puis, il faut penser à notre psychologique, relations humaines et ainsi de suite, pas juste parce que oui, les réseaux sociaux sont là, hein, on parle de magnésium, on parle de protéines, on voit que ça, puis je peux pas dire que je ne l'ai pas regardé, on veut tout faire un peu pour le mieux, fait que si on peut améliorer des choses, mais il ne faut pas jamais oublier le côté psychologique. Je pense que c'est une partie qu'on regarde pas, que j'appelle l'ego, qui est assez complexe en soi, mais que je suis en train d'apprendre présentement de regarder un petit peu plus ça, parce que c'est quelque chose que j'ai laissé de côté.
Bon, je vais ailleurs. Vous exercez toutes et tous dans une discipline différente du domaine de la santé, une spécialité différente dans le cas de nos deux médecins. Qu'est-ce que vous diriez de l'état de l'interdisciplinarité au Québec en 2026, de la collaboration entre les médecins, les infirmiers, les nutritionnistes, les pharmaciens, les chercheurs en vue d'offrir aux patients les meilleurs soins? Puis j'aurais pu nommer d'autres disciplines, là, les physios, les inhalos. Est-ce que vous vous parlez, les gens du domaine de la santé? Est-ce que vous vous concertez entre vous? Est-ce que c'est de mieux en mieux, André Luyet, cette concertation?
C'est de mieux en mieux. Je pense que l'interdisciplinarité est quelque chose de différent, de la multidisciplinarité. Avoir une mise en commun des différentes expertises en réponse aux besoins de la personne, c'est là que l'interdisciplinarité peut livrer ses fruits et c'est encore le meilleur moyen de faire face à la complexité rencontrée.
Docteur Perrault?
Bien, non seulement elle est là, mais selon moi, elle est aussi évidente et nécessaire. Moi, je me sens comme un maillon, même pas dans une chaîne, plus comme dans un filet, et je suis juste quelqu'un qui voit un problème précis à un certain moment, mais j'applique pas, c'est pas moi qui donne les pompes, c'est pas moi, je prends des biopsies, mais c'est pas moi qui les analyse. Tous les tests qui me sont donnés ont été faits, les données ont été prises par quelqu'un d'autre, puis maintenant, je sais pas si tous les hôpitaux, les médecins fonctionnent comme ça, tout le monde a mon numéro de cellulaire. Je suis, c'est une porte ouverte un peu virtuelle où est-ce qu'à presque n'importe quel moment, on peut me texter pour me dire, et même ici dans notre CIS, mais je travaille aussi pour le CIS de la Côte-Nord pour tout ce qui est apnée du sommeil, puis quelques fois par semaine, ils vont me texter. Alors, on se parle constamment d'égal à égal. C'est très horizontal.
Catherine Martel?
Bien, j'allais dire, moi, mon laboratoire est situé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Puis je pense que c'est le meilleur exemple de communication entre les différentes parties. Donc, on a des chercheurs, autant cliniciens que fondamentalistes, comme moi, je suis présentement. Et on a aussi des équipes d'infirmières, d'infirmiers, de pharmaciens également. Puis tout le monde se parle, tout le monde travaille de concert, autant pour la recherche que pour le traitement des patients, par exemple, quand on pense aux cliniciens-chercheurs.
David Gaussier, notre pharmacien, tu veux vous s'exprimer là-dessus?
C'est drôle parce que moi, je trouve que maintenant, l'interdisciplinarité, elle est facile, elle est évidente. Je trouve que dans la région, c'est particulièrement facile. Moi, je vois une différence entre le début de ma pratique il y a 15 ans et aujourd'hui dans la facilité d'interagir avec infirmières, médecins et autres. Donc, je vois ça de façon très, très, très positive dans notre pratique, effectivement.
Marie?
Bien, au Centre d'expertise en maladies chroniques où je travaille, on est des infirmières, des kinésiologues, des nutritionnistes, puis le patient vient pour changer ses habitudes de vie. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a toute la même vision, tu sais, sur la saine gestion du poids, sur l'intégration de certains aliments ou le retrait. Donc, on se passe la poque entre nous, mais on s'en va tout au même endroit avec le patient en partant d'où est-ce qu'il partait dans ses habitudes de vie. C'est essentiel.
Le patient, la patiente, va-t-elle voir la bonne professionnelle, le bon professionnel? Peut-elle aller là où le voir en vrai, là, pas en théorie? Parce qu'on martèle... Excuse-moi, j'utilise ton nom de famille, Catherine. On martèle que l'urgence, c'est pour les cas urgents, mais est-ce que c'est si simple que ça d'éviter la fameuse urgence? Qu'en diriez-vous? Est-ce que les gens vont voir, là, ils se dirigent au bon endroit?
On pourrait tous répondre en même temps. Ouais. Pour ma part, en pharmacie, évidemment, on est en première ligne. Là, donc, c'est un enjeu important, moi, je trouve, dans la société présentement, parce que je pense qu'il y a des cas qui se rendent à l'urgence qui ne devraient pas, et il y a des cas qui devraient nécessiter des soins rapides à l'urgence qui n'ont pas de soins rapides. Et comme je dis toujours, les êtres humains qui sont dans notre système sont bons, compétents et extraordinaires, à 99%, je crois, et c'est le problème, des fois, c'est d'y avoir accès.
André?
Malheureusement, quand toutes les portes sont fermées, la seule souvent qui reste ouverte, 24/7, c'est l'urgence. Et il se retrouve là des gens qui auraient, s'ils avaient pu avoir accès à des services mieux adaptés à leur situation, auraient probablement reçu des meilleurs services aussi, puis en temps plus opportun que dans une salle d'urgence où c'est la prise de décision rapide, là, mais c'est pas le lieu pour faire une prise en charge longitudinale pour des problèmes de santé complexes.
Mais est-ce si simple d'éviter l'urgence? Il y a un paquet de gens qui n'ont pas de médecin de famille.
C'est pas simple.
Là, on leur dit « Allez voir votre pharmacien. Tu vas voir ton pharmacien, j'ai une otite. » Ah ben là, l'otite, vous pouvez pas prescrire quelque chose pour une otite si on n'en a pas déjà eu une auparavant?
Loi, à voir ce qui va découler de la loi, on ne le sait pas présentement.
Ouais. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus, Dr Perrault?
Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus, parce que moi, évidemment, de mon côté, moi, je ne fais pas de la première... Tout le monde doit venir me voir avec une consultation.
Oui, on ne peut pas aller vous voir directement.
Non, je ne fais pas de privé. On ne peut pas juste venir me voir. Il n'y a pas de passe-droit. Jamais eu de passe-droit. comment dire, ce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour aider cette situation-là, outre que j'ai amassé un bon lot de patients qui... peuvent venir me voir en dehors de leur rendez-vous usuel en laissant un message. Ça peut pas être la journée même, mais ça peut être comme de façon relativement rapprochée. Donc, je suis resté un peu plus flexible pour justement empêcher des visites à l'urgence. Et aussi, c'est sûr que pour nos patients plus fragiles, qui sont suivis par le CLSC aux soins à domicile, par les inhalothérapeutes, des fois même par les soins palliatifs, on reçoit des appels, vous dites, est-ce qu'on pourrait faire X pour empêcher une visite à l'urgence ou une hospitalisation, puis on fait ce qu'on peut, c'est pas tout le temps possible. L'hôpital, évidemment, reste la place pour les cas plus sévères.
Docteur Luyet?
Mais il y a des soignants qui avaient des formations, qui avaient des expériences et qui, et pour pouvoir les consulter, il y avait des barrières. Et c'est toute la discussion intéressante qu'il y a actuellement sur un terme que j'aime pas tellement, le décloisonnement des professions. Non, les professions, depuis longtemps, ne sont pas si cloisonnées que ça. Les gens, c'est pas un repli sur soi. Les gens aiment travailler avec les autres. Mais pourquoi il faut nécessairement une consultation pour aller voir tel type de professionnel? Pourquoi faut-il avoir une évaluation par un médecin de famille pour avoir un billet de consultation, pour aller voir la personne qui serait la plus apte à recevoir ce patient-là et lui venir en aide? Alors, il semble y avoir un vent qui souffle actuellement pour enlever ces...
Vous seriez favorable à ça?
Ah, tout à fait.
Est-ce qu'on puisse aller voir directement le spécialiste là, sans passer par son médecin de famille?
Mais pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas avoir accès à des services d'orthophonie sans avoir un billet de son médecin de famille? Pourquoi faut passer par un autre guichet où il y a une longue file d'attente avant de... Alors, il y a des gens qui sont bien formés dans le réseau et qui pourraient aussi être appelés à contribution et qui souhaitent pouvoir le faire également. Il faut juste abaisser ces barrières-là.
La gestion de ce réseau, la gestion, c'est une grande question, mais est-ce qu'il y a trop de gestionnaires, d'étages hiérarchiques, de paperasses, de tracasseries administratives, pas suffisamment de gros bon sens et d'humanité, vous en diriez?
Bien, la paperasse, oui, il y en a énormément. On parle souvent qu'on traite plus de feuilles, de papier que des fois les patients, puis ça devient un peu vrai. C'est sûr que le gouvernement veut avoir les preuves que l'argent qu'ils mettent dans la santé aille vraiment à bonne place. Donc, il faut faire des formulaires. Mais moi, ça fait quand même longtemps que je travaille, ça fait 30 ans, puis il y a eu des temps où ce qu'on pouvait avoir des services directement à ce patient-là. Ben, moi, ici, je le disais, le lendemain, il l'avait. Maintenant, il faut passer par de la paperasse. Oui, je comprends que c'est nécessaire. On ne peut pas pitcher l'argent partout, surtout qu'il y en a de moins en moins présentement, fait qu'ils vont le voir être plus sévère. Mais les soins à domicile, ce que je fais, je crois que c'est la porte d'entrée majeure qui pourrait être plus utilisée encore énormément. Parce que les gens veulent rester chez eux. Les gens sont chez eux. Fait que si on est capable de garder les gens chez eux, on garde leur santé mentale, on garde leurs habitudes. La nutritionniste peut arriver à la maison, voir les habitudes qui se font, comment ça se passe dans le frigidaire. Moi, je pense qu'il y aurait plus d'argent à mettre dans les soins à domicile, parce que c'est pas normal qu'on va à l'urgence faire presque une pompe. Là. On attend 10 heures pour se faire presque une pompe pour les poumons, comme parle le Dr Perrault. Il y a des nuances, puis les pharmaciens, je pense qu'ils peuvent en prendre encore un petit peu plus large dans certaines affaires. Souvent, on les appelle parce qu'on pense qu'ils ont le droit, parce qu'on trouve ça logique dans notre tête, mais c'est pas encore là. On a eu de la misère avec ça là, pour quelques années, on n'était pas content, il y a ben trop, les médecins ne voulaient pas, mais je pense qu'il y a des petites choses, comme disait Dr Luyet, qui peuvent être amoindries, mais pas complètement, parce qu'on peut pas aller voir un spécialiste sans savoir que ce spécialiste va m'aider. Il faut que quelqu'un nous le dise que ça vaut la peine d'aller le voir. Ouais. Sinon, tu sais, j'en reviens.
Notre nutritionniste a quelque chose à ajouter là-dessus.
Moi, ce que j'ai goût d'ajouter à ça, c'est que ça nous prendra encore plus de lois au niveau de la santé publique. Mon travail, c'est d'évaluer que mon patient mange trop de sel ou mange trop de sucre, mais le dire une personne à la fois de réduire sa quantité de Pepsi, alors que si j'avais une loi qui dirait on n'a pas le droit de mettre plus que tant de sucre dans nos boissons sucrées, pas d'avoir des ramen qui sont bourrés de sel, mais je pourrais travailler oui, avec mon patient à changer ses habitudes, mais vu qu'il faut que je le dise tout le temps, c'est comme pas payant, je trouve, au niveau collectif, que mon salaire soit utilisé à une personne à la fois, alors que si j'avais des lois plus fortes, bien, dans le fond, mes gens mangeraient moins salé puis moins sucré, puis personne s'en apercevrait.
Une nouvelle, ça va beaucoup trop vite. Une nouvelle, il est déjà 12h50 presque. Une nouvelle et dernière pause avant un nouvel et dernier échange sur, si vous le voulez bien, les déterminants de la santé.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
Les résidences Soleil.
C'est porte ouverte dans toutes les résidences Soleil. Venez visiter, c'est l'occasion de découvrir l'abondance de loisirs et d'activités, les services évolutifs et les logements abordables. Tirage et cadeaux pour tous les visiteurs. On vous attend du lundi au dimanche de 9h à 17h. Une entreprise familiale, un gage de qualité.
Ma place au soleil.
1-800-363-0663.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Je veux vous entendre tous les six sur les déterminants de la santé, de la génétique, biologie, comportement individuel, environnement physique, soins médicaux, facteurs sociaux. Lequel est, diriez-vous, l'enfant pauvre de ces déterminants, celui auquel on s'attarde et s'attaque le moins, Catherine Martel?
Eh bien, moi, je suis ici pour parler de science, principalement. J'aimerais malheureusement mentionner que la science est probablement l'enfant pauvre du système de santé.
En termes d'investissement?
En termes d'investissement, et ce, autant au niveau provincial que fédéral, on le voit chez nos voisins du Sud, où ils coupent massivement en recherche, entre autres sur la santé cardiovasculaire des femmes ou la santé des femmes en général. Quand on pense à la recherche, on pense surtout à la prévention des maladies, quelles qu'elles soient. C'est important d'investir en recherche. C'est sûr qu'a priori, ça fait pas sexy donner de l'argent pour la recherche parce qu'on voit pas les impacts la plupart du temps à court terme. Par contre, dans 5, 15, 20, 30 ans, on va les voir, les impacts, pas juste sur la santé de la population, mais sur les coûts associés aux soins de santé. Donc, il faut prioriser la recherche, il faut prioriser les investissements dans les universités, dans les institutions de savoir, pour éventuellement venir en faire bénéficier la population en général.
Quelqu'un d'autre sur les déterminants de la santé auxquels il est urgent de s'attarder, Dr. Luyet?
Il faut voir ça comme des facteurs de risque aussi, et un certain nombre sur lesquels on peut agir. C'est sûr qu'on est avec un certain bagage. C'est plus difficile d'intervenir à ce niveau-là. Si vous êtes le fils à naître d'un père qui a l'hémophilie, c'est limité. Mais on parlait de nutrition tout à l'heure. Oui, il y a encore beaucoup de déserts alimentaires, même dans des grandes villes comme Montréal, où les gens qui ne peuvent pas se déplacer facilement prennent le principal de leurs denrées au dépanneur, où le rayon des fruits et légumes, là, c'est 2-3 bananes noires, puis une tomate meurtrie, c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver là. Alors, il faut répondre à ça. Il y a des déserts alimentaires, il y a des déserts médicaux aussi. Dans notre riche Canada, il y a encore des réserves indiennes qui n'ont pas accès à de l'eau potable.
Il y a aussi à l'éducation des jeunes, je dirais. Tu sais, si on pourrait commencer à éduquer les jeunes directement au secondaire, on parle pour parler, mais de l'alimentation, de l'hygiène. Tu sais, on dirait que la volonté est que j'aime mieux avoir des brebis garées. C'est plus gagnant pour la société d'avoir des brebis garées que de les éduquer comme il faut jeunes, parce qu'ils vont faire les bonnes décisions. Moi, en tout cas, c'est mon opinion, ouais. Parce que je pense qu'un jeune qui se fait dire ça, un jeune, puis qui comprend que c'est bon, il va commencer tout de suite à s'intéresser à bien manger, faire du sport, ainsi de suite. Tandis que là, c'est plus les réseaux sociaux, c'est tout ça, fait que c'est les influenceurs qui influencent, justement.
Oui, et il y en a sur lesquels, oui, on a des leviers qui permettraient de changer le cours des choses. La sédentarité, la surcharge pondérale, le tabagisme, ça paraît des points assez évidents.
Facteurs sociaux et économiques, revenus, statut social, éducation, littératie, réseau de soutien... C'est pas vrai qu'on est égal devant la maladie, égal quand il faut y faire face à la maladie.
C'est vrai.
On est égal une fois qu'on est malade.
Puis c'est drôle parce que tout ce qu'on dit...
On est égal une fois qu'on est malade.
Lorsqu'on est malade, on est tous égaux. Mais tout ce qu'on est en train de dire, je trouve, c'est qu'on a une médecine qui est très réactive. On n'a pas de médecine qui est en prévention. On n'agit pas en amont. La médecine nord-américaine est un peu... Bien, on est malade, on agit. On fait un test, on le trouve, on agit. Mais tout ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on devrait faire plus de prévention, mieux informer les patients, puis se donner les outils pour ne pas tomber malade. Et on sauverait à tous les niveaux, que ce soit social et économique et autres.
Il y a des choses qu'on voit venir, là, qui sont claires pour la plupart des observateurs. C'est ce qu'on appelle le tsunami gris, là, et le maintien à domicile. On parlait des parents pauvres, je pense qu'il y aurait des investissements à faire de ce côté-là. Et les personnes âgées qui arrivent à l'hôpital et qui sont gardées à l'urgence en attente d'avoir un lit vont très, très vite se déconditionner. Ils sont à risque de développer aussi une infection nosocomiale. Ils sont en perte cognitive. Souvent, après un séjour de quelques semaines, c'est difficile d'envisager un retour à la maison sans passer par une réadaptation lorsqu'elle est disponible et possible. Alors, je pense qu'il y aurait des investissements à faire là. Puis on n'entend pas de personne un plan réaliste.
Bon, et puisque vous avez le micro, docteur Luyet, la maladie physique suscite la sympathie, l'empathie. Est-ce qu'on peut en dire autant de la maladie mentale? Est-ce que la réponse est encore en 2026 non?
La réponse est encore non. Il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de la maladie mentale. C'est un frein même pour beaucoup de personnes de venir consulter. Ils ont peur d'avoir cette étiquette-là ou des conséquences, encore une fois, sur leur emploi, sur la façon dont ils sont perçus dans leur réseau, parmi leurs proches aussi, avoir de la difficulté à s'assurer à cause d'un diagnostic qui traîne dans un dossier depuis des années et qui n'est plus du tout à jour. Oui, c'est encore dans les activités de levée de fonds de nos fondations hospitalières, là, probablement c'est plus facile de ramasser de l'argent pour la pédiatrie, pour la cardiologie, que pour la maladie mentale.
Ma dernière question, c'est une grosse question, et puis on a trois minutes peut-être là, pour en discuter. Que fait-on pour se donner au Québec un meilleur système de santé? Oh là là! Oh là là! Que fait-on?
Ben, on écoute la science dans un premier temps, parce que je pense que tout a dû être étudié ou écrit à quelque part, puis se recentrer sur le patient. Puis moi, j'avais le goût d'ajouter tantôt aussi, tu sais, en nutrition, vu que tout le monde mange trois fois par jour, on prend pour acquis que tout le monde sait un peu ce qu'on dit. Fait que de là, des fois, de recentrer sur la science, là, c'est pas parce que je mange que je sais qu'est-ce qu'il faut que toi, tu manges, là. Donc, toute la désinformation là, qu'on vit, tu sais, moi, je vis ça depuis 5 ans, là, les gens m'arrivent, qu'est-ce que tu penses de ce régime-là, qu'est-ce que tu penses de lui, ce qu'il dit, tu sais, je suis beaucoup confrontée à ça, alors que moi, ma parole est remise en doute, alors que je fais partie d'un ordre professionnel, puis j'ai étudié là-dedans. Donc, ça aussi, on a à être confronté à ça, puis ça rend le système, on dirait, il faut tout le temps que je me défende de ce que j'avance et ce que la science et ce que mon ordre, tu sais, j'ai étudié 4 ans, je fais partie d'un ordre, il faut que je me perfectionne, mais il faut tout le temps que je défende mon point.
Alors qu'autrefois, il n'y a pas si longtemps, c'était ce que disait le médecin ou le pharmacien, c'est parole d'évangile. Là.
Ce qui n'est plus le cas. Et on gaspille beaucoup d'énergie à essayer de, tu sais, j'accompagne mon patient où est-ce qu'il est rendu, mais des fois, c'est pas ce à quoi que je crois, mais je vais l'accompagner quand même.
Il reste 2 minutes, les autres. Comment fait-on pour améliorer le système de santé, Catherine?
Bien, je pense que Marie l'a dit, il faut coopérer avec tous les systèmes. Quand on voit que le gouvernement américain prend la pyramide alimentaire à l'envers, ça doit être difficile d'être nutritionniste ces temps-ci, diététicienne. Je pense qu'effectivement, il faut y aller en prévention. Comme Steve disait, je pense qu'il faut y aller dans l'éducation, éduquer nos jeunes de plus en plus tôt sur les bonnes et saines habitudes de vie à prendre, à croire en la science, pas croire n'importe quoi qu'on dit sur les réseaux sociaux, croire les vrais scientifiques, les vrais médecins, les vrais pharmaciens, ne pas avoir peur de consulter les personnes qui ont été formées à bon escient en ce sens-là.
David? Tantôt, j'en ai parlé hors d'onde, mais moi, je trouve que la santé ne devrait pas être le sujet d'un gouvernement élu, devrait être le sujet de tous les gouvernements. Ça devrait être une action qui est collective, qui est réfléchie ensemble pour la population. Le problème, je trouve, c'est que souvent, on recommence aux 4 ans les idées, mais ça devrait être un sujet pour tous, finalement.
André Luyet?
Oui, et dépasser une vision myopique, là, de chercher des gains rapides qui sont peu porteurs. Je pense que la prévention, on devrait muser davantage, le dépistage et avoir, en quantité suffisante, des interventions précoces.
Docteur Perrault?
On doit aller chercher dans notre prévention et dans notre enseignement la personne qui n'écoute pas. Parce que c'est elle qu'on... Parce qu'on va toujours... On veut faire de l'enseignement la personne qui écoute, qui a tous les balados de ça. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est d'aller chercher la personne qui écoute pas. Puis si j'avais la solution à ça, je vous la donnerais.
Intéressant. Steve, si tu vas avoir le mot,
de la fin. Moi, c'est toujours un peu la question d'argent. Parce que dans les faits, est-ce que la société, est-ce que le gouvernement pense vraiment aux patients? La question est là. Parce qu'on a tout en entour de la table, on dit c'est le patient, mais il y a tout le temps des enjeux financiers à l'extérieur. La recherche, si elle ferait de la recherche sur les fraises et les framboises, parce que ça pourrait guérir le cancer, elle ferait de l'argent, mais c'est pas payant, parce que les framboises, ça coûte pas cher, on peut l'acheter. Fait que c'est, j'envoie ça comme ça, dans l'univers.
Je vous remercie toutes et tous, ça a été vraiment, vraiment, vraiment trop court, mais ça a été passionnant. Merci David de Gauthier, Steve Gouin, André Luyet, Catherine Martel, Marie Ouellette et Jean-David Perrault. À cette émission mardi prochain, la nouvelle configuration sur le pont Turcotte et ses abords, le temps des travaux. Bonne semaine!